Bonjour à tous et bienvenue dans La Route Digitale, une initiative de Salesforce et EcoConnect dans laquelle nous parlons de transformation digitale, un élément vital au développement des entreprises, tous secteurs confondus. Comment les entreprises abordent-elles la transformation digitale? Celles qui sont frileuses, qui ne prennent pas le train de la digitalisation, ne risquent-elles pas de rester sur le quai?
De plus en plus, il y a les investissements qu'on fait. Ce sont des investissements qui sont de plus en plus digitalisés avec une interface, avec un outil digital pour servir nos gens internes, mais aussi nos clients externes. Donc là, de plus en plus, la digitalisation trouve aussi son chemin dans notre production.
Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au secteur de la construction et particularité intéressante, nous allons parler d'une entreprise familiale. Crasswood Group, une société basée à Waregem depuis 4 générations, spécialisée dans le bois. Bonjour Dirk Panau.
Bonjour, enchanté.
Vous êtes Chief Transformation Officer chez Crass. Alors Dirk, avant d'entrer dans le vif du sujet, petite question, vous occupez un poste qui a été créé spécifiquement pour ce projet de transformation numérique. Alors quel avantage vous y voyez?
C'est vrai, cette fonction un peu particulière, mais en fait, personnellement, je travaille déjà dans la société pendant 10 ans, dans les 2 dernières années comme CTO. Et on a trouvé un peu d'inspiration dans la lecture des spécialistes de transformation qui expliquait que voilà, pour aller dans un trajet de formation, si une société avait l'avantage d'avoir quelqu'un dans la société qui connaissait la société et qui avait un intérêt dans cette transformation, que c'est quand même le profil idéal pour entamer cette aventure, si vous voulez. Mmh. Donc voilà, on a commencé avec ça, et puis en fait c'est la transformation, c'est mon job, c'est à 100% ce que je fais.
Comment est-ce que Crass en est venu et comment est-ce qu'on vous a proposé à vous le job?
Oui, CTO, c'est un titre très spécifique, mais comme j'avais déjà 10 ans d'expérience dans la société, on avait pris un certain inspiration dans la lecture spécialisée qui disait voilà que si vous avez un profil dans la société qui a déjà une certaine expérience et qui est intéressé dans ce trajet de formation et qui a évidemment aussi les compétences pour faire ça, ça pourrait être quelque chose de idéal pour la société. De guider la société à travers de ce trajet avec un profil comme tel. Donc c'est ce qu'on a fait. Comment est-ce que ça a été né quelque part? Bon, on a constaté comme société que le monde autour de nous était en train de changer, et on a commencé d'écrire une stratégie, parce que stratégie c'est aussi quelque chose qui est dans beaucoup de sociétés. Est-ce qu'on connaît la stratégie? Si on pose cette question, on reçoit 4 différentes réponses. Donc, c'était pas différent chez nous. Donc, on a dit, écoute, on a besoin d'une stratégie uniforme qui est claire pour tout le monde. Et pour faire ça, on s'est fait guider par une société externe et on a fait une retraite pendant 4 jours dans une abbaye très sobre. Et c'était très sobre, mais c'était un cadre idéal pour faire le focus sur cette stratégie-là. Et là, après 4 jours, on avait cette stratégie, et quelques jours après, on avait un dîner avec le propriétaire de la société pour discuter. Écoute, maintenant, on a ce document, comment est-ce qu'on va continuer d'ici? Et on m'a proposé à ce moment de prendre le lead dans ce trajet et de le faire comme COO, qui est une fonction plutôt traditionnel dans l'économie ou dans la société, et là à ce moment je voulais quand même donner une signal que voilà, je voulais pas être le suivant COO, quelqu'un d'opérationnel, mais que ce que notre société avait besoin, c'était vraiment, si on voulait arriver à les objectifs mis, que on parlait d'une transformation et que c'était fort important que moi je m'allais occuper avec ça. Donc en effet, il y a toute une partie de tâches opérationnelles qui font partie de cette fonction, mais l'objectif c'est toujours d'arriver à cette transformation.
Quels avantages vous voyez à être la personne qui s'occupe prioritairement et uniquement de transformation digitale?
Si on parle d'une transformation, on parle quand même de changer la société à fond, donc des choses fondamentaux qui sont pas toujours évidents. Et donc, si vous n'avez pas un buy-in sur le niveau le plus important de la société, c'est très difficile à réussir. Donc, pour moi, personnellement, c'était fort important d'avoir ce mandat et de montrer à la société que voilà, que le patron, le propriétaire, Monsieur Kras lui-même, était aussi derrière, et que la société avait pris la décision d'aller pour la transformation, entière, quoi.
On l'a dit au début de ce podcast, Kras, c'est une entreprise familiale. 4 générations. Alors, vous venez de dire que le patron était favorable et toujours favorable à cette transformation, mais est-ce que, j'imagine que vous avez quand même rencontré des petites résistances, des tensions, des difficultés, parce que 4 générations, on est quand même dans une entreprise familiale avec des traditions, donc est-ce qu'il n'y a pas eu des résistances ?
Tout à fait, sans doute. Je pense où il y a de la changement, il y a de la résistance, c'est évident. Pendant ce trajet de préparation, on avait aussi constaté, c'était pas une surprise, mais notre société est une société avec une culture très forte. Et je pense que c'est le plus important, en fait, avant de commencer dans n'importe quel trajet qui sera lourd, que vous avez une culture qui va le supporter ou qui est capable de supporter le changement. C'était pas la révolution, si vous voulez. Donc, vous avez toujours de la résistance. C'est important d'avoir un plan d'attaque. Nous, on a obtenu le buy-in de la société en créant un conflit mental. Nous, on a dit, écoute, on veut doubler le chiffre d'affaires. Et à ce moment, vous avez un conflit quelque part où on dit, écoute, on doit changer quelque chose. Pour y arriver, pour doubler le chiffre d'affaires, il faut faire des choses différentes qu'aujourd'hui. Et puis, on commence à réfléchir, on commence à penser d'autres façons qu'on avait fait dans le passé. Et doucement, avec tout le monde, parce que je me souviens, dans l'époque où c'était encore possible d'avoir des fêtes personnelles, je me souviens une des dernières éditions où on avait l'habitude de chacun qui travaillait plus que 25 ans dans la société était nommé sur un podium, était donné des fleurs. Et la liste était, voilà, il y avait beaucoup de gens qui pouvaient montrer sur le podium. Donc, Kras est vraiment une société avec une grande ancienneté, avec beaucoup de gens qui sont là depuis des années, et ce sont eux qui ont amené la société où elle est aujourd'hui. Pour être sain et prête pour le futur aussi, c'est important qu'on rajoute ça avec des gens qui ont une vision et qui ont des compétences qui vont aussi regarder pour vers le futur et qui vont aider à obtenir les objectifs mis à ce niveau-là.
Alors, vous disiez un instant que vous avez une grande part de vos collaborateurs qui ont 15 ans, 20 ans, 25 ans d'ancienneté. Comment, dans la pratique, vous avez réussi à convaincre vos collaborateurs plus âgés qui sont attachés à des process plus traditionnels à prendre le train de la digitalisation ? Comment on fait dans la pratique ?
C'est un défi, c'est un défi de créer un mariage entre les deux, mais c'est pas parce que vous êtes en transformation que vous n'avez plus besoin des compétences des gens qui sont là depuis 15 ou 20 ans. On est un secteur traditionnel où la connaissance produit et la connaissance marché est fort important. Donc, c'est plutôt quelque chose en plus, hein, et on rajoute quelque chose en plus dans la société avec un, mais vous avez toujours besoin, le plus important, ça reste ce qui est là. Ça reste notre connaissance, ça reste le métier, ça reste connaître les clients, le marché, les produits. On ajoute une couche de vision et d'essayer de créer des méthodes de travailler ou de poser des questions qu'on posait pas avant avec un respect pour ce qui est là déjà. Par exemple, on a la vente traditionnelle dans le woodshop, mais des clients veulent aussi de plus en plus acheter online. Ils veulent trouver les informations nécessaires sur un website. Ce sont des choses dans une société traditionnelle, dans un secteur traditionnel, qui sont pas toujours évidents, mais qu'il faut créer, sinon vous n'êtes pas prêt pour les clients de demain.
Kras est une entreprise spécialisée dans le bois et plus particulièrement les panneaux pour les façades d'immeubles, les parquets, les portes, hein, pour ne citer que. Et est-ce que ça a été simple d'amener de la digitalisation dans un secteur aussi particulier où en gros on a toujours les mains dans le matériau?
Tout à fait, vous avez tout à fait raison. On est un secteur traditionnel, le bois ça reste le bois. Je dis toujours qu'on ne peut pas comparer Kras avec une société comme Tesla ou une autre marque automobile. Je pense que quand vous allez visiter notre production, c'est pas une production d'automobile. automotive, hein, c'est quelque chose de plus traditionnel, mais là aussi, de plus en plus, il y a les investissements qu'on fait, ce sont des investissements qui sont de plus en plus digitalisés, avec un interface, avec un outil digital pour servir nos gens internes, mais aussi nos clients externes. Donc là, de plus en plus, la digitalisation trouve aussi son chemin dans notre production. Mais c'est vrai que pour faire la transformation digitale, ça doit pas toujours être high-tech. C'est plutôt, il faut écouter votre client, il faut écouter le marché, qu'est-ce que le marché a besoin et qu'est-ce que les moyens digitaux ou la technologie peut rajouter à obtenir ces objectifs.
Vous travaillez donc avec des clients qui sont aussi souvent des entreprises. Comment est-ce que vous gérez la différence? C'est-à-dire que certaines entreprises clientes sont pas du tout digitalisées aujourd'hui. Et comment est-ce que se passe l'interaction?
En effet, on travaille surtout avec des professionnels. On a plus que 15 000 clients, donc évidemment, dans 15 000 clients, vous avez un mix de tout. Hein. Il y a des gens qui sont déjà bien avancés dans le digital. Il y a des autres qui travaillent encore de façon très traditionnelle. Et je pense que pour une société comme la nôtre, c'est fort important de travailler pour les deux. Hein. Je pense que c'est quelque chose qu'on voit aussi dans le secteur en général. Si demain on faisait tout digital, on va perdre beaucoup de clients. Donc, c'est plutôt les efforts qu'on fait, c'est plutôt avec une orientation vers le futur et pour une partie des clients qui sont déjà prêts. Et ça va vite. Maintenant, avec des situations comme Corona, je pense que la digitalisation, en fait, ça prend une vitesse beaucoup plus importante ou une ampleur plus importante. Mais c'est vrai que le parti traditionnel, ça reste pour nous le fondament pour la croissance, hein. Ça reste fort important de continuer à servir ses clients et on le fait de façon digitale. Donc, hein, on travaille d'une méthode digitale. On a tout ce qui est physique, les woodshops, les points de vente, les vendeurs qui sont chez les clients. Les clients chez nous, ils peuvent commander par fax s'ils veulent, par téléphone, par email, aucun souci. Mais il y a une groupe de clients qui croient et qui, vers le futur, va encore croître beaucoup, qui veulent le faire de façon digitale. Donc, il faut tenir compte avec les deux et servir les clients en général.
Et quel est le profil de ces clients qui sont déjà digitalisés?
Là aussi, il n'y a pas une règle. Il y a des gens qui travaillent tout seuls, qui font des toitures, par exemple, mais qui sont jeunes et qui ont le digital dans la DNA. Je pense que ceux qui ont des enfants le voient tout le temps. Ils font tous avec leur GSM. Mais je pense que cette génération qui font tout avec leur GSM, ils commencent aussi à travailler. Et ces gens-là, ils attendent de passer leur commande par leur GSM. Donc, il faut être prêt quand cette génération devient la majorité pour leur servir. Je pense qu'il y a aussi des grandes sociétés et des clients qui sont avec un nombre d'employés plus important. Ils sont parfois plus structurés, plus automatisés. Ils travaillent avec des logiciels qui demandent certaines interactions avec le nôtre. Mais c'est très diffus, c'est très différent. Ouais.
J'imagine que vous faites appel à l'intelligence artificielle. À quoi est-ce qu'elle vous sert aujourd'hui? Est-ce que vous estimez que c'est indispensable?
Je pense que beaucoup de sociétés, la nôtre aussi, étaient déjà en train d'utiliser les informations qu'on a ou les dates qu'on a de façon la plus intéressante. C'est vrai, en choisissant des logiciels plus performants, que vous allez commencer à utiliser ces dates de façon plus rentable ou plus commercial. Donc, pour nous aussi, avec 15 000 clients, si tous ces clients-là, ils demandent des prix ou ils font des commandes, il y a plein d'informations qui sortent, trop d'informations pour voir parfois des corrélations dans ces informations. Et c'est vrai que de l'AI dans notre business, ça nous a aidé. Notamment avec Salesforce, là, on a quand même pas mal des possibilités. Par exemple, tout ce qui est cross-selling et upselling, ça, les sociétés, ils connaissent déjà. Mais nous, on a commencé une cellule séparée dans la société qui s'appelle Wood Connections. Et cette cellule ne fait que détecter des projets dans le marché. Et on lie ça avec les entreprises générales, avec les subcontractors et avec les architectes. Comme ça, on créer un tas d'informations et on a beaucoup de connaissances sur l'évolution des projets dans le marché. Et finalement, ça nous amène à une situation où on est capable à vendre pour nos clients. Parce qu'on sait, écoute, là, il y a un projet en cours. Est-ce que vous êtes intéressé? On sait que vous êtes bien en placé des façades, par exemple. Là, on a besoin de 400 mètres carrés de façade. Est-ce que si vous êtes intéressé, on peut vous amener ce projet? Et ça sont des choses qui sont pour le futur. Ça donne des possibilités pour créer un community, pour créer vraiment une valeur ajoutée pour vos clients qui est géré par leur fournisseur. C'est un service que avant c'était pas du tout normal que le fournisseur vendait pour son client. C'est quelque chose qui est devenu possible grâce à des souches digitales qu'on a et des méthodiques ou des logiciels qu'on a pour lier l'un à l'autre et de créer des tableaux pour les vendeurs où ils voient tout ça dans un coup d'œil sur leur écran. Donc ça facilite les choses et il y a une vitesse qui est dedans qui est très intéressant pour les vendeurs.
Alors vous le disiez tout à l'heure, la construction, le domaine de la construction, c'est plutôt traditionnel. Alors vous avez pris le chemin de la digitalisation. Est-ce que vous avez l'impression que le secteur évolue aussi vite que vous?
Le plus important, ce qu'on peut dire sur la concurrence ou la digitalisation dans le secteur, c'est vrai, on est un secteur traditionnel, mais on voit plein d'évolutions. Il y a beaucoup de sociétés qui sont en train d'investir là-dedans, sur différentes manières. Et je pense le plus important sur la concurrence, c'est que ça devient plus international. Hein. La concurrence, ça vient de sociétés qu'on connaissait peut-être pas encore il y a 5 ans. Donc, la concurrence, ça devient plus large et il y a plus de joueurs et ce sont pas toujours les joueurs traditionnels anciens qu'on a toujours connus comme concurrents pendant les dernières dizaines d'années. Donc ça change et je pense que les concurrents les plus importants sont peut-être encore à venir. Donc la digitalisation, comme chaque secteur, crée des possibilités pour des sociétés de commencer à zéro et de créer un concept dans le marché qui est possiblement compétitif avec le nôtre.
Si je vous écoute, je sens que vous avez vraiment pris le train de la digitalisation, mais où est-ce que vous trouvez votre inspiration pour garder ce défi? Parce qu'il suffit pas d'avoir un beau site internet et de se dire ça y est, je suis digitalisé.
Il y a une différence entre digitaliser et la transformation digitale. Moi, ce qui m'a ouvert les yeux un peu, c'était la lecture de certains spécialistes dans la matière que tout le monde connaît. C'est un Yoko Dron, c'est un Peter Hansen, c'est un Steven Van Bellegem, qui ont écrit beaucoup de livres déjà sur ce sujet-là. Donc pour moi, ça c'était et c'est encore toujours une inspiration de suivre ce que ces gens voient dans le monde et ce qu'ils écrivent comme livres parce que c'est très intéressant. Et quand vous êtes une fois dans cet état d'esprit où on cherche la digitalisation et l'évolution qui va ensemble, vous rencontrez des autres sociétés qui sont dans la même histoire. Hein, Salesforce notamment nous a aidés avec ça aussi. Eux, ils organisent des événements où différentes sociétés se rencontrent. On a rencontré InBev, on a rencontré Schoenentorfs, qui est un chaîne de souliers en Flandre. Donc, ce sont des belles sociétés qui sont tous en train avec la même chose, c'est la digitalisation et la transformation digitale. Donc voilà, et une fois que vous êtes dans un réseau qui s'occupe avec ça, une fois que vous avez fait le choix pour des paquets logiciels très performants, vous arrivez dans un réseau qui te donne l'inspiration à fond.
On va reparler de vos salariés. Tout à l'heure, on disait que vous avez rencontré quelques réticences. Où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui? Vous êtes bien avancé dans le processus. Comment est-ce qu'ils le vivent, cette transformation?
C'est pas facile à ce moment, c'est-à-dire qu'on est 4 semaines éloignés d'une go live de SAP. Donc, on va remettre un nouveau logiciel dans la société qui est toujours une période très lourde. Donc, c'est lourd. Le changement, la transformation, c'est quelque chose de... Ouais, on commence avec ça. Wow. C'est ambition, ce sont de belles objectifs, beaucoup de possibilités. Mais une fois quand on est dedans et on touche à tout ce qui est le fondamental de la société, c'est quand même pas si simple, ni pour la direction, ni pour les gens qui sont en train de charger les camions, ni pour les vendeurs, ni pour les vendeurs internes. Donc c'est difficile pour tout le monde parce que la société, voilà, il y a un peu la stabilité qui tout ce qu'ils ont connu. On est là, on est en plein changement, donc c'est difficile, mais on a une culture qui est très forte et on a des gens qui ont déjà prouvé dans le passé beaucoup de fois qu'ils sont aptes pour ce défi-là. Et voilà, je suis très fier sur la société et les collaborateurs, ce qu'ils font, parce que c'est vraiment pas facile.
Merci beaucoup Dirk Panau d'avoir répondu présent dans la route digitale et je vous souhaite bonne chance dans ce mariage entre tradition et transformation. Merci à tous d'avoir suivi la route digitale. N'hésitez pas à réécouter les épisodes précédents sur votre plateforme d'écoute favorite et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Quant à moi, je vous dis à bientôt.